c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. C'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste.
Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix.
Bonjour Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Et nous avons la visite d'Antoine aussi, un jeune homme qui apprend un peu qu'est-ce que c'est une radio associative, RLP. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de l'Uruguay. Nous avons trouvé un article très intéressant sur ce que vous allez découvrir. Ensuite, nous allons parler de l'Amérique centrale et de la Chine, qu'on parle beaucoup de la Chine maintenant, même ce matin, on a écouté comment la Chine s'installe un peu partout dans le monde. Nous allons parler d'un sujet très complexe, de la migration. Nous allons aussi aborder quelques aspects d'un prochain sommet Europe-Amérique latine. Oui, c'est bien ça, Europe-Amérique latine. Et si nous avons le temps, nous allons vous faire écouter, nous écouterons un reportage envoyé par Radio Nationale d'Espagne, gardé dans les archives de d'OPEAL, justement sur la migration féminine. Je laisse la parole à Béatrix pour nous parler de Tana.
Tana.
Tana,
c'est un cépage. À plus de 10 000 km de ses origines béarnaises, le Tana a trouvé au pays des gauchos un hôte idéal avec son climat tempéré et humide. Le Tana, aux baies bleues noires, qui contiennent plus de pépins que les autres cépages, est riche en tanins astringents, une caractéristique qui lui a conféré son nom. En Uruguay, on a jugé que ce breuvage était idéal pour accompagner les pièces de bœuf locales. Le tana se marie très bien avec la viande dont l'Uruguay est le plus gros consommateur au monde par habitant. Devenu cépage national de ce pays d'Amérique du Sud, le tana serait d'origine béarnaise. Aujourd'hui, l'Uruguay produit une large variété de styles. Ces Tana rivalisent avec ceux produits à Cahors ou Madiran. Près d'un tiers des Tana au monde sont produits en Uruguay. La plupart de petites exploitations familiales sont situées entre le 30e et 35e parallèle sud, à la même latitude que les grands producteurs de vin que sont le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud. Fier de son emblème qui le fait connaître au-delà des frontières, l'Uruguay dédie même une journée à ce cépage chaque 14 avril.
Ahí va el carbonero, pregonando en pleno invierno o en los calores de enero. changuito carbonero, con tu burrito y tu grito vidalero, te llevo retratadito. Qué lindo recordar al zoco y cachilo, los asados al carbón, sus dos guitarras y el vino. Santiago, vos sos monte y sos leñatera, y también sos el carbón chispeando en las chacareras. Que no te veo, te llevo prendida, como brasas a rescoldo, así te llevo encendida. Alguito estoy sabiendo de tus antojos, son carbones encendidos, el brillo que hay en tus ojos. Así es mi corazón, desde muchacho, ardedor y duradero como carbón de quebracho.
Écoutez l'émission, vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler d'un sujet complexe, de l'Amérique centrale et de la Chine, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, on reparle de la Chine en Amérique centrale, oui. La présidente de Taïwan est partie fin mars pour un séjour de 10 jours en Amérique centrale. Il s'agit de rendre visite à deux États qui reconnaissent diplomatiquement l'île, Taïwan, le Guatemala et le Belize. Mais la dirigeante fait aussi le déplacement pour tenter de contrer l'influence grandissante de la Chine dans la région. Le voyage de Taisei Ing-wen intervient une semaine après l'annonce par le Honduras de la fin de ses relations diplomatiques avec Taïwan au profit de Pékin. Les quelques petits États qui, comme le Guatemala et le Belize, lui apportent encore une reconnaissance officielle, offrent à Taïwan une voix dans les institutions internationales. Mais le 25 mars, le Honduras a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec l'île, puisque la présidente Xiomara Castro l'avait annoncé lors de la campagne présidentielle en 2021. Le mouvement de reconnaissance de la Chine par les pays d'Amérique centrale risque de se poursuivre. Il a débuté en 2007 avec le Costa Rica, le Panama en 2017 et le Nicaragua en 2021 ont tour à tour rompu leurs relations avec Taïwan. La Chine finance par exemple le corridor routier le plus important du Costa Rica. Malgré des débuts laborieux, l'Amérique centrale se tourne désormais vers la Chine.
Oui, on peut ajouter qu'il était difficile pour ces pays d'ignorer les marchés chinois, alors que l'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, le Venezuela, le Pérou et le Chili, a connu une augmentation constante de ses échanges commerciaux avec la Chine, de même qu'un développement des infrastructures financées par Pékin ces 20 dernières années.
Thank you.
Émission L'Autre Amérique sur le son de RLP, Radio Libre en Périgord. Et nous allons aborder un sujet qui touche tout le monde, partout dans le monde, les migrations.
Oui, la question migratoire dans les Amériques. L'Amérique latine a historiquement une relation remarquable au fait migratoire par la colonisation ibérique à partir du XVe siècle, par la venue massive d'Européens et au XXe siècle par les mouvements inverses d'immigration au cours de les trois dernières décennies. Dans la présidence de Donald Trump, à partir de 2017, la question migratoire est politiquement inflammable dans les Amériques. Dans les pays où les partis nationalistes et xénophobes montent en flèche ou ont accédé au pouvoir, la question migratoire s'est installée au centre des débats politiques intérieurs, contraignant les démocrates à s'en emparer. La gestion des flux migratoires est partout montée en épingle par les extrêmes droites et en toute occasion, parfois avec manipulation des informations et des chiffres. Toutefois, il convient de noter que les flux migratoires ne sont pas principalement intercontinentaux, mais d'abord interrégionaux, pour des raisons de proximité géographique, linguistique et culturelle. En 2015, 66% des migrants internationaux en Amérique latine provenaient d'un pays de cette même région. La situation économique, sociale et sécuritaire de nombreux pays de la zone Caraïbes, Andine et Amérique centrale n'invite pas à l'optimisme.
La musique de l'Amérique centrale. Et nous allons aborder maintenant un sujet positif, c'est mon avis très personnel d'ailleurs. Un sommet Europe-Amérique latine à se tenir le mois de juillet prochain à Bruxelles.
Oui, le dernier avait lieu, je crois, en 2015.
Où y était ?
Donc, le troisième sommet Europe-Amérique latine aura lieu en juillet 2023 à Bruxelles. L'Union européenne et l'Amérique latine vont renouer les 17 et 18 juillet 2023, donc, avec une tradition diplomatique, celle de rencontres bilatérales tombées dans un oubli institutionnel prolongé. Le dernier sommet remonte en effet en 2015. Le prochain en juillet 2023, le troisième donc, est convoqué à Bruxelles. Le journaliste Federico Nastasi, qui est italien, docteur en philosophie et en économie, indique qu'il y ait à nouveau un sommet entre l'Union européenne et la CELAC. C'est la communauté des États latino-américains et de la Caraïbe, est sans doute une bonne nouvelle. Depuis le dernier sommet en 2015, beaucoup de choses ont changé. Avec la guerre aux frontières de l'Europe, on peut comprendre qu'une politique extérieure myope oublie l'Amérique latine et la Caraïbe. Comme il est tout aussi vrai que cette absence distraite de l'Europe a facilité la montée d'autres puissances, comme la Chine, qui a augmenté sa présence militaire, culturelle et économique dans le continent latino-américain. Les intérêts commerciaux sont le socle du grand échange de biens et de services qui font de l'UE le troisième partenaire commercial de l'Amérique latine et Caraïbes. L'Amérique latine, avec les présidents Gustavo Petro en Colombie et Lula au Brésil, deux leaders forts ayant une vision régionale, peuvent réactiver les processus d'intégration et jouer un rôle dans les instances multilatérales.
Oui, on pourrait ajouter juste que l'Europe est de loin le premier donateur coopérant avec l'Amérique latine. L'Union européenne a programmé un engagement de 3 400 millions d'euros pour la période 2021-2027 pour coopérer avec l'Amérique latine. La majorité des pays européens financent de plus ambitieux programmes de coopération dans la région latino-américaine. Il convient de signaler le lancement par l'Union européenne du programme Global Gateway qui prétend mobiliser 300 milliards d'euros d'investissement dans le monde entier. Les projets d'écologie durable, d'infrastructures physiques et digitales en Amérique latine peuvent bénéficier de ces plans ambitieux. Voilà Europe, Amérique latine, ensemble, Francis Cabrel et Mercedes Sosa chantent.
Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor.
Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más.
Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Voilà, Francis Cabrel, qui représente l'Europe, et Mercedes Sos, qui représente l'Amérique latine, chantent ensemble Europe, Amérique latine. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Nous allons vous faire entendre un reportage envoyé par Radio Nationale d'Espagne sur l'immigration, justement, féminine. Voilà donc, c'est un reportage en espagnol.
Migración femenina en España. La migración aparentemente tenía como protagonista al hombre, pero desde hace varias décadas la realidad ha cambiado y tiende a feminizarse como lo está haciendo la pobreza mundial. María Álvarez de Eulate ha salido al encuentro de mujeres inmigrantes que residen en Madrid.
Madrid tiene una fisonomía diferente a la de hace unos años. Si uno pasea por sus calles, siente que palpita una urbe cosmopolita. No en vano viven en la capital española ciudadanos pertenecientes a 167 nacionalidades, y la mayoría son mujeres. Son estas las que tomaron la decisión de abandonar un día sus hogares para viajar al extranjero. En el caso de Ecuador, la crisis económica provocó que ellas perdieran antes sus empleos, y por este motivo se convirtieron en pioneras de una aventura incierta, la emigración. María Amor López Espinosa es agregada cultural de la Embajada Ecuatoriana en España.
Los primeros que perdían los trabajos en esta depresión fueron mujeres, las que tenían trabajo. Y las que no tenían trabajo, y tenía el marido el trabajo, bajó el valor adquisitivo de lo que tenían tanto que decidieron que la mujer saliera a trabajar. Pero claro, no dentro del país porque no había trabajo. Entonces, decidieron dentro de la familia quién emigra para mejorar nuestra situación económica. Y la verdad, decidieron que fuera la mujer.
La mujer huye de la falta de oportunidades y toma la decisión cuando aún es joven. De hecho, la media de edad de las féminas que trabajan en Madrid es de 35 años. Muchas de ellas desempeñaban en sus países puestos como secretarias o como mano de obra en fábricas. Aquí en España suelen desarrollar labores en los sectores de hostelería y servicios y asistencia domiciliaria. Colombia es uno de los países que también exportó más mujeres que hombres, tal y como señala Carlos Clemente, ministro plenipotenciario de la embajada.
6 de cada 10 inmigrantes colombianos son mujeres. El 66% de las mujeres colombianas residentes en España tienen entre 20 y 44 años. 4 de cada 10 mujeres colombianas se ocupaban antes de venir a España como pequeños comerciantes, administrativas, operadoras de informática, secretarias o similares. 8 de cada 10 mujeres colombianas han tenido como primer empleo al llegar a España el servicio doméstico. 4 de cada 10 mujeres trabaja entre 50 y 60 horas a la semana y los salarios mensuales alrededor de 500, 600 euros.
La Consejería de Inmigración de Madrid tiene muy poco tiempo de vida, pero ya destina 4.400 millones de euros a un plan de integración y ha cuadruplicado su ayuda al desarrollo en los lugares de origen de las principales comunidades inmigrantes. Este plan trata de abarcar distintas áreas como vivienda, trabajo, sensibilización, participación, educación y sanidad. Rosa Peris, directora general del Instituto de la Mujer, cree que en este sentido se han dado grandes pasos.
Yo quiero decir que el derecho a la salud es un derecho que está garantizado a todas las personas que vivan en España, afortunadamente no solo en Madrid, que efectivamente está garantizado, sino en todo el territorio, porque tanto el derecho a la salud como el derecho a la educación son derechos universales que se reconocen a todas las personas con independencia de su procedencia, ¿no? Y de hecho la escolarización de los niños y las niñas se produce de manera automática.
Las mujeres como protagonistas de la inmigración latinoamericana en España han sido objeto de análisis en un seminario organizado por la Casa de América de Madrid. Una de las responsables del evento es Ana Pellicer.
Las cifras hablan y lo que nos cuentan es que llegan las mujeres primero. Después de unos años trabajando en España, acaban trayendo a sus familias y a sus maridos y a sus hijos. Entonces, se crean unos nuevos, hay unos nuevos problemas socioculturales que se les plantean a estas nuevas familias, de integración, de conciliación de estas propias mujeres, porque no nos olvidemos de que estas mujeres están ayudando a conciliar a las mujeres españolas su vida laboral, pero ¿quién les ayuda a ellas a conciliar la integración de sus hijos, ¿no? Están ayudando en el desarrollo social español cuidando a nuestros mayores, pero ¿quién cuida a sus mayores?
Carlos Clemente, ministro plenipotenciario de la Embajada Colombiana en España, cree que las mujeres inmigrantes demuestran un alto grado de compromiso y además contribuyen al desarrollo de la comunidad que las acoge.
Madrid se labra un mejor futuro gracias a la mujer inmigrante. Humanamente, no podemos desconocer que la tasa de natalidad se ha recuperado en Madrid y en España. Y no podemos desconocer que la mujer inmigrante ha permitido que la mujer española pueda armonizar su vida familiar y su vida laboral.
Más de 1 millón de los inmigrantes que viven en nuestro país proceden de América Latina y más de la mitad son mujeres. El idioma es sin duda la causa por la que eligen España y se deciden a cruzar el charco para emprender un nuevo futuro en Europa.
Notre émission L'Autre Amérique touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des informations sur notre continent Amérique latine. Et merci à Antoine, à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.
Todo el mundo.